Moi, je suis André du Mouchma, au Cassin Oriental. J'ai réfléchi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, le tout premier d'ailleurs de l'année 2017. Dialogue national inclusif. Après la première phase des négociations, les évêques membres de la CENCO ont annoncé le vendredi dernier la deuxième phase qui consiste à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre dernier. Cette seconde phase de leur médiation consiste aussi à recueillir les propositions des parties prenantes au dialogue sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'accord, notamment la formation du gouvernement. La grande question que nous soumettons au débat, quels sont selon vous les préalables pour la mise en œuvre effective de cet accord? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à vous tous ceux qui avez déjà déposé vos messages sur cette question. Gilles Pesabongonda est au standard, Pierrot et la Mégie à la réalisation, Sylvain Matundou à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Seboujangé, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Labung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Après que les deux parties aient fait des concessions mutuelles importantes, le 31 décembre dernier, nous avons un accord, disent les politiques, et autant de questions se sont posées, ont été posées par les uns et les autres par rapport à la suite de cette gestion de la crise. Est-ce faut-il revenir pour expliquer aux uns aux autres c'est quoi un accord? Et à partir de ces arrangements, faudrait-il encore attendre une certaine volonté politique ou la bonne foi, comme le réclament les uns et les autres, pour arriver à l'application effective de cet accord? Autant de questions, vous avez également dans le chapitre, vous pouvez passer à cette émission, comme je l'ai dit. Nous avons le plaisir de recevoir, en tout cas, dans cette émission, pour la toute première fois de l'année 2017, l'honorable Christophe Lutundula, un des membres qui avait participé aux négociations directes de la CENCO. Bonjour, honorable.
Bonjour.
Alors, la première question pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres, aujourd'hui, quand on parle d'un accord politique, est-il différent de la Constitution?
Mais je voudrais aussi que vous acceptiez que je puisse souhaiter une année nouvelle 2017, plein de réussites, plein de succès, en tout cas une année heureuse à vous-même, à votre famille, à la Radio Okapi, à la Monusco, et surtout à tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays. Une année, en tout cas, qui devra nous permettre de réaliser cette grande espérance que cet accord a fait naître et de permettre à notre pays de retrouver une vie normale. Une vie normale dans son chemin pour la démocratie et le développement. En tout cas, nous, les G7, nous, les rassemblements, nous allons travailler avec le peuple congolais à cela. Oui, il y a une différence fondamentale entre un accord et la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la base de l'organisation de l'État et de manière générale de la République et du pays. C'est la Constitution qui est le point de ralliement. Je dirais mieux, le fond commun de la nation congolaise et en l'espèce la Constitution du 18 février 2006 en est un comme fond commun. Nous devons la protéger. C'est elle qui organise le pouvoir et au risque de me répéter, il n'y a pas de nation à travers le monde qui avance, qui soit stable, qui réalise de progrès sans avoir cette base-là qui peut s'appeler la loi fondamentale. On en a eu, l'Allemagne en a, la Constitution. Chez les pays anglo-saxons dont la tête se trouve être la Grande-Bretagne, le Canada aussi, et tant d'autres. ils n'ont pas de constitution formelle comme chez nous, avec j'allais dire un livre ou une brochure où les règles sont énoncées de manière systématique. Il y a un ensemble de règles, de lois, des actes, comme on les appelle chez eux, qui organisent le pouvoir et dont la compilation, si on peut dire, constitue une base constitutionnelle commune. Tandis que l'accord, en droit, on dit c'est une convention entre parties. C'est un accord sous un privé, c'est-à-dire que dans les cas d'espèce, je ne parle pas d'accord entre États. Les accords internationaux, les traités, les accords
politiques.
Et c'est ceci. Il y a une crise politique, ou même s'il n'y a pas une crise à l'issue des élections, en tout cas sur un problème donné qui se pose au pays et à la société, les acteurs politiques et de plus en plus actuellement les acteurs sociaux, la société civile qui est une des forces vives de la nation, conviennent de la manière d'aborder cette question, de la manière de la résoudre. Et chez nous, nous avons une crise électorale qui a dégénéré en crise politique aux impacts multiples, aux effets induits multiples sur le plan économique, sur le plan social. Devant cette situation, la classe politique, comprenant ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne le sont pas, qui sont dans l'opposition, et par deux phases successives, il y a eu le dialogue de la cité de l'Union africaine, il y a eu une prise de la société congolaise, des forces vives de la nation, qui s'est réunie et cette frange-là s'est mise d'accord sur la manière de résoudre la crise. Il y a une autre frange composée du rassemblement de toutes politiques sociales acquises au changement, dont je suis membre de l'une des composantes du G7, la société civile et le Front pour le respect de la Constitution, dont le leadership est assuré par le MLC. Cette frange-là a considéré que la perspective, la solution proposée à la cité de l'Union africaine n'était pas la bonne. Elle ne répondait pas aux questions fondamentales, aux préoccupations fondamentales de Congolais. Et nous aussi, nous avons proposé une autre perspective à l'occasion ou à la fin de notre conclave du 4 octobre l'année dernière. Le Fonds pour le respect de la Constitution en a proposé une autre et tout cela a été porté si vous voulez, à la connaissance de la CENCO.
J'avais dit à la CENCO de proposer les bons points de divergence.
Donc, l'accord n'est pas la Constitution. Si vous voulez que l'accord entre dans l'ordre institutionnel de la République, tel que défini par la Constitution, il faut d'autres initiatives, de propositions de loi, de projets de loi, de parlementaires. Et ce qui est important, c'est que l'accord ne peut pas violer la Constitution.
Alors, si je comprends bien encore vos propos, l'accord, ce sont des arrangements qui constituent des actes pour permettre de résorber une crise qui est engagée sur le plan politique ou peut-être qui est née des élections. Alors là, on comprend par rapport à certains auteurs qui ont dit que les arrangements sont des actes transitoires dont la vie et la survie dépendent de la volonté des acteurs politique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Écoutez, d'abord le terme arrangement, oui, techniquement il est acceptable. C'est un accord de volonté. Mais souvent, ça prend une connotation négative, comme des histoires marginales, comme si vous voulez des conseillers en ville. Non, il ne faut pas que ça soit pris de manière péjorative. Mais ce qui est vrai, et là je suis d'accord, en pareille circonstance, la bonne foi des partis, la volonté de respecter les engagements et de réaliser les engagements constitue des préalables essentiels. En tout cas, c'est le fondamental. C'est ça d'ailleurs qu'en matière de convention, même au niveau des États, on dit que les conventions s'exécutent de bonne foi. Et ce qui est préoccupant maintenant concernant notre pays, c'est toute cette tonalité qui est tenue, qui est diffusée par l'autre camp, le camp de la majorité présidentielle, le camp des signataires, certains, je dis bien certains signataires de l'accord du 18 octobre signé donc à la cité de l'Union africaine. Ça ne rassure pas, ça ne rassure pas et ça pose effectivement un problème de bonne foi et de bonne volonté.
Alors, revenons, parce que je l'ai dit tantôt, il y a eu des constructions mutuelles importantes, des part et d'autre, du côté de la majorité, ainsi que du côté de la partie non signataire de l'accord du 18 octobre. Et c'est ce qui a permis qu'on puisse avoir l'accord du 31 décembre. La suite, les évêques l'ont annoncé, qu'à partir de maintenant, nous attendons déjà la deuxième phase qui consiste à la mise en œuvre de l'accord politique, de cet accord. Alors, pour vous, de l'opposition, quels sont les préalables?
Non, écoutez,
qu'est-ce que le peuple peut attendre de vous?
Écoutez, là vous avez abordé plusieurs questions, je vous demanderai l'autorisation de revenir sur certains éléments de ce que vous avez dit. Les acquis, d'accord, on va en parler, et puis la situation actuelle, parce que j'ai l'impression que ce flou qu'on entretient à travers un certain discours et certaines tonalités est tout à fait désincarné par rapport à la réalité politique et économique de notre pays, et c'est extrêmement dangereux. C'est ce type de combat d'arrière-garde n'est pas de nature à aider. Allons maintenant à votre question. Pour nous, le Rassemblement, ou si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? Je voudrais rassurer tout le monde. Et je l'ai toujours dit, nous ne sommes ni une rébellion, ni une opposition armée. Notre arme, c'est la Constitution, c'est notre Bible, notre armée, c'est le peuple. Nous sommes engagés dans ce processus. Dès le début, nous avons dit que nous soutenions la médiation. Dès le début, nous avions dit, oui, le vrai dialogue que nous avons appelé de tous nos voeux est là. Et pour le 17, nous sommes satisfaits de voir que, alors que en mars, nous avions préconisé les négociations directes et bilatérales, on nous a diabolisé. Aujourd'hui, en fait, c'est ce que nous avons prédit qui est arrivé. Donc, nous sommes engagés. Nous ne ferons rien qui puisse faire obstacle à la mise en œuvre de l'accord. C'est pour cette raison qu'au moment où je vous parle...
Les premiers préalables, vous devez vous mettre d'accord sur d'abord la désignation de la...
Attendez, c'est pas ça. C'est pour cette raison qu'au moment où je vous parle, nous sommes prêts avec nos propositions qui concernent l'arrangement particulier. Nous allons en parler. Et on n'a pas pu déposer le samedi, parce qu'il y avait des petits problèmes de d'internet et ainsi de suite.
C'est pas ça. C'est pas vous êtes divisé, mais non.
Mais non. On va y revenir. Nous ne sommes pas divisés. Ce travail-là, nous allons le déposer obligatoirement aujourd'hui et nous serons présents demain avec les délais pour les négociations d'arrangement. Alors revenons à votre question. Non, on n'est pas divisé. Je nous comprends, nous, les Congolais. J'ai toujours dit que la transition institutionnelle a pris fin depuis longtemps, mais la transition des mentalités, des cultures politiques, elle prendra beaucoup de temps. Et c'est pour ça que les Chinois ont fait la révolution culturelle. Chez nous, jusqu'à aujourd'hui, j'observe, à mon corps défendant, que nous avons l'impression qu'on reste toujours sous l'ancien régime de la Deuxième République, qui sacralise inutilement certaines choses. Être candidat Premier ministre, candidat président de la République, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal de la culture et des exigences de la démocratie. Donc, qu'il y ait des gens qui manifestent, par exemple, leurs ambitions au sein du Rassemblement pour être Premier ministre, mes chers amis, vous nous attendez, c'est normal et ça doit se faire comme ça. Nous sommes une plateforme démocratique et celui qui est en charge la direction de notre Conseil d'État, et c'est ce qu'il dit, je n'ai pas besoin de
développer. Pourquoi ne l'avoir pas préparé avant d'aller au niveau?
Attendez un peu là.
C'est comme si vous avez été surpris.
Je comprends que vous faites la course pour la montre, mais il faut quand même qu'on explique bien les choses. Hein? Donc, ce qui va se faire au Rassemblement, et qui s'est fait déjà, tous ceux qui ont des ambitions, tous ceux qui ont des solutions à proposer, les mettent dans le palier qui est chez le président. C'est ce qu'on est en train de faire. Et graduellement, nous allons trouver une synthèse harmonieuse pour sortir un an. Et pour le G7, je confirme ce que le président Lumbi a dit dans la conférence de presse de samedi. Je confirme ce que la délégation du G7 est allée dire au président Tshisekedi, à savoir que pour nous, c'est l'UDPS qui sort le Premier ministre. Et nous allons soutenir cela sans équivoque. Ce qu'on démontre, et ce que le président Tshisekedi fait, c'est que quand même, on consulte tout le monde pour que ce soit le candidat du consensus. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Écoutez, nous n'allons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous n'allons pas être comme quand on était jeune au village. Vous voyez un avion qui passe, vous dites, putain, c'est mon avion, l'avion a même disparu des nuages, et vous vous battez. Et quand les parents viennent, ils vous disent, vous battez pourquoi? Ben, il a pris mon avion, mais où est l'avion? L'avion a disparu.
Alors, si vous le permettez, on va lire les standards, on va accueillir les auditeurs qui vont participer à cette émission. Omar est à Kinshasa, Sylvain Bouya et Valérie à Kindou, 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Capi. Omar, vous êtes le premier auditeur à ouvrir les débats pour cette année 2017. Omar, bonjour et bienvenue.
Ah, bonjour, Jia Longembo, merci de la parole et bonne année à tous les auditeurs.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, l'honorable Christophe Lutundula, qui évoquait les acquis, les acquis de cet accord du 31 décembre, les concessions mutuelles importantes qui ont été faites entre les deux parties. Aujourd'hui, c'est vrai, comme tout le monde, on évoque la question de la volonté et de la bonne foi des uns et des autres pour que finalement on puisse appliquer de manière effective cet accord.
Merci beaucoup, Gilles, de la parole. Avant tout, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à remercier les chefs de l'État, le président Kabila, ainsi que le président Tshisekedi, qui ont enfin pris conscience du danger qui guettait le pays et qui ont décidé de parler. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Merci également à tous les participants à un dialogue, de la majorité ou de l'opposition, signataire ou non signataire, car ils ont compris enfin que les problèmes du Congo doivent être traités par les Congolais même et non par les milices étrangères. Ces discussions, comme vous l'avez dit, vont aboutir à l'accord du 31 décembre 2016. À mon avis, un accord qui vient apaiser les esprits et qui vient quand même nous rassurer quant au procès électoral. Cet accord, je le pense, comme l'a dit l'honorable Lutundula, a la vocation de booster les processus et de solutionner les problèmes des Congolais. Mais on a des inquiétudes, Julien. Voilà pourquoi, par là, nous devons discuter et parler des préalables sérieux pour la mise en œuvre effective de cet accord. Pourquoi inquiétude avant d'aller au préalable? Nous avons déjà dans l'histoire beaucoup d'États, beaucoup d'accords qui n'ont jamais été respectés, faut du temps que je ne citerai pas. Alors nous jeunes qui aspirons au chef de politique demain, nous avons peur que la même histoire puisse se répéter. Voilà pourquoi j'ai parmi le préalable, je pense, comme tout le monde l'a dit, le premier des préalables, c'est la volonté politique des acteurs politiques. Si vous lisez les études faites sur l'histoire politique congolaise ou africaine, vous allez vous rendre compte que parmi les causes qui font que nous ne puissions pas toujours émerger, c'est le non-respect des accords que nous avons pris consciemment. Nous voulons qu'il y ait une volonté politique, d'abord de la part de la majorité. Nous trouvons mal à notre jeunesse aujourd'hui qu'il y ait des gens qui signent librement, sans contrainte, et qui disent après que cet accord ne respecte pas la Constitution, alors que pendant qu'on analysait ce qui devait être signé comme accord, il y avait des experts qui étaient là. On trouve également mal qu'on puisse dire qu'on a signé sous réserve. Donc, ces déclarations font en sorte qu'on puisse dénoter un certain manque de volonté politique. Voilà pourquoi nous pensons hier, la première chose à faire, les préalables, c'est la volonté politique de ceux qui nous gouvernent, car ils ont une part léonine dans l'application de cet accord. Deuxième chose, l'opposition signataire de l'accord. Elle doit aussi, pour que la mise en œuvre soit effective, tenir compte du point de vue des autres. Monsieur Lutundula, lorsqu'il y a eu accord de 18 octobre, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'inclusivité. On ne va pas revenir sur la notion théorique de l'inclusivité. Aujourd'hui, le même jour que vous avez attaqué, vous attaquez pour manque d'inclusivité. Les déclarations telles que l'inclusivité et que les points de vue des gens ne sont pas considérés, vous devez aussi les éviter. Nous voulons, nous jeunes, que cet accord soit appliqué. Et je pense que, et au niveau de la majorité, et au niveau de l'opposition, on doit tenir compte. Parce que le premier pas vers l'accomplissement de l'accord passe aussi par le respect du point de vue de l'autre. Autre chose, l'opposition non signataire, je vois les messieurs les autres. Il y a un principe sacré en droit juif qui dit Salus populi supremum lex esto. C'est le salut du peuple pour l'intérêt du peuple qui est la loi suprême. Il est temps que nous puissions dépassionner les débats, nous puissions enlever nos intérêts personnels et au nom de la paix, au nom du procès électoral, que nous puissions oublier les divergences et que nous puissions signer. Ça, c'était le premier préalable, la volonté politique et des acteurs de la majorité et de l'opposition. Deuxième point, j'ai un centre de maturité. Aujourd'hui, nous avons vu les gens des rassemblements dire que ce qui est fait, c'était pour le partage du pouvoir. Mais c'est chaque jour sur Facebook, sur Twitter, les informations qu'on se rend compte, il y a même un débat sur le Premier ministre. Je pense qu'on n'est pas allé discuter pour avoir de vote, on est allé discuter pour trouver des solutions. Mmh. Il est temps que l'homme politique et de la majorité et de l'opposition soient matures pour comprendre que on est d'abord là pour le pays. Que les gens qui seront nommés, que celui qui sera désigné, ne soit pas parce qu'on pèse politiquement, parce qu'il mérite. Parce que en matière politique, il ne suffit pas de dire qu'on aurait l'élection le 31 décembre 2006. Encore faut-il avoir des temps, des gens compétents. Car dans un pays qui se veut démocratique et expert, on ne peut pas émerger sans compétence. Donc, le deuxième passe à la majorité des gens politiques qui doivent être là pour le peuple et non. Et avoir l'esprit de débat au niveau de chaque regroupement. Ça fait mal qu'on voit l'UDPS qui dit qu'on a la primature, qu'on voit maintenant le studio, on n'a pas discuté, qu'on voit les autres qui sont candidats. Et au niveau de la majorité, qu'on dise qu'il faut d'abord qu'il y ait l'Assemblée nationale, le premier ministre d'avant qui dit je serai démis seulement par l'Assemblée nationale. Il y a un certain manque de maturité dans les hommes politiques qui oublient qu'on est là-bas pour le pays. Chacun veut tirer les cas de son côté.
Voilà, merci. Alors, si je comprends bien,
je finis par là, s'il vous plaît.
Oui.
Il faut qu'il y ait une étude technique, ce qu'ils appellent l'arrangement particulier. Lorsqu'on vient dire aux gens qu'on va faire les élections le 31 décembre 2017, est-ce qu'on a tenu compte des facteurs économiques, des facteurs techniques? Et lui qui doit diriger les élections vous dit qu'il y a des problèmes sérieux. Est-ce qu'on en a tenu compte? Je voudrais, comme l'honorable l'a dit, l'arrangement peut être condé comme un avenant. Dans un contrat, dans un accord, il n'y a pas un mouvement statique. L'accord peut évoluer. Lorsqu'on va faire des arrangements particuliers de type technique,
on tient compte de cette réalité.
C'est une réalité sérieuse que nous avons. Et moi, je l'ai dit sérieusement hier. Je suis vraiment pessimiste. J'ai d'autres chances hier.
Au mois de décembre.
Parce que on est venu, quand on fait des accords politiques, on ne peut pas venir seulement parler par passion, par sentiment. On doit tenir compte de réalité. C'est lui qui doit vous diriger, vous dire que je n'ai pas en mesure de le faire en tant que femme. C'est lui qui doit vous prendre l'attitude. Là, d'abord, vous abaissez à la baisse.
Voilà. Merci beaucoup. Vous avez donné trois préalables au bas. Je retiens bien la volonté politique. Vous avez rejoint les décors que nous avons plantés et puis la maturité des hommes politiques. Et vous avez cité sur la réelle politique, c'est-à-dire faire quand même une étude technique et aussi croire, faire confiance à la centrale électorale du pays qui estime que matériellement ce n'est pas faisable au mois de décembre 2017. Donc là, il faudrait quand même que l'opposition puisse tenir compte de cet aspect ou encore la majorité dans les arrangements qu'on pourrait, les arrangements politiques à venir. Merci beaucoup, Omar. Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue.
Merci, Thiro. Je voudrais saluer l'honorable Cric. Au même moment, c'était élevé le meilleur à tous les Congolais. La question qui se pose aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que de toutes les parties qui prises à la gestion de l'État congolais, il y a eu des responsabilités. Et pas soit du côté de la majorité comme de l'opposition, de la société civile, nous n'avons pas su encadrer notre petit démocratie que nous avons entamée après la guerre de 97. Et aujourd'hui, ce que nous avons, l'accord, qu'il soit celui du 18 octobre, tout comme celui du 31 décembre, pour moi, cela révèle le signe de la gestion de notre démocratie. Ça veut dire le signe de l'irresponsabilité politique de notre.
Voilà, c'est ça.
C'est valable pour l'application de l'accord. Et je dis aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous devons être sincères vis-à-vis de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce qui se dessine en face du front pour le respect de la Constitution, en face du G7, en face du rassemblement, en face de la majorité présidentielle, en face de la société civile, ce sont des intérêts qui, de nature sociologique, se déclinent.
Voilà, on a du mal à vous suivre, Sylvain. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déplacer un tout petit peu de là où vous êtes?
Oui, je me déplace. Là, vous me suivez correctement.
Oui, allez-y.
Là, ça va?
Oui, ça va. Allez-y.
Bien. Je disais que tout ce qui divise là, ce sont des intérêts. Mais bien, je voudrais que.
Voilà. On ne sait pas aller plus loin, Sylvain. Il y a des micro-coupures. On peut pas continuer avec cela. On est en train de prendre Valérie qui est à Kindou. Valérie, bonjour.
Oui, bonjour. Mes meilleurs vœux, JR Lungembo. Mes meilleurs vœux à l'honorable Christophe Tundula et à tous les amis.
Oui, alors Valérie, avant qu'on revienne à notre invité, aujourd'hui c'est vrai, dans l'accord, il est clairement dit que la primature revient à l'opposition, rassemblement. Maintenant, ça sera une gestion consensuelle, mais certaines personnes estiment qu'il va falloir penser déjà à la charte qui va régir la répartition de ce pouvoir entre la majorité et l'opposition. Sinon, ça pourrait constituer aussi un obstacle dans l'avenir. Est-ce que vous partagez cet avis?
D'abord, nous devons partir de l'esprit qui a guidé, qui a présidé à la constitution ou à la production de cet accord. Des consensus. Puisqu'ils ont réussi dans la première phase à se faire des consensus, que si on conserve le même esprit, même le partage de pouvoir ne posera pas problème. Oui, il a été dit que la primature revient à la. La primature revient au rassemblement. Les évêques ont clairement expliqué à Mme Eve Bazaïba, que je respecte bien, que le poste du CNT, du Conseil national de transition, n'a pas été confié au rassemblement, mais plutôt à la personne de Kim Tshisekedi, compte tenu de son poids historique, de sa garantie, du fait que sa présence garantit tout le monde. Et je me rappelle même, Vital Kamerhe a dit que je ne vois pas quelqu'un dans ce pays qui peut corrompre Kim Tshisekedi. Nous avons reçu le ministre de la Justice, il a animé aussi une conférence de débat ici, il a aussi répété clairement. Donc, moi je pense que le passage de pouvoir ne sera pas un problème s'ils évoluent avec le même esprit. Mais lorsqu'on constate par exemple du côté de la majorité, qu'il y a des voix qui s'élèvent, qu'il y a des conférences, des points de presse contradictoires, les uns qui disent, avant de confier la primature au rassemblement, il faudrait que les rassemblements demandent pardon au peuple. Bien même les autres viennent de contredire. Si on continue dans cet esprit, alors nous allons revenir.
Valérie, je crois que s'agisse du côté de l'opposition ou de la majorité, chaque camp a quand même un chef de file. Du côté de la majorité, nous avons tous suivi le secrétaire général de la majorité qui a replacé les choses dans son contexte en disant que l'accord est salué par la majorité pour autant qu'il sera conforme à la Constitution. Je crois que à ce niveau, il y a également un débat pour les uns. Et pour les autres, les choses sont claires que la majorité, par la bouche du secrétaire général, a déjà salué l'accord, a soutenu l'accord, pour autant qu'il y a des articles qui ne dérangent pas la Constitution.
Oui, mais il y avait, moi je trouvais cette adresse-là aussi un peu ambiguë. D'une part, le secrétaire de la majorité reconnaît qu'il salue l'accord. D'autre part, il le pose encore d'autres problèmes en disant que si du moins il ne viole pas la Constitution. Mais ceux qui ont signé, qui font partie de la majorité, est-ce qu'ils peuvent nous révéler par où la Constitution est violée dans cet accord? Moi, je crois qu'ils auraient commencé par nous démontrer que voilà à quel point la Constitution
voilà.
est violée.
Alors, je crois que c'est à ce niveau-là que la deuxième phase, comme l'ont annoncé les évêques, où les débats devraient se poursuivre avec des arrangements particuliers. 081-890-7315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs.
Nous sommes encore avec vous, honorable Christophe Lutundola. Vous venez de suivre d'ailleurs cette série des auditeurs. Après, il y a beaucoup de propositions également, hein, et aussi quelques initiatives qui caractérisent en fait les uns et les autres. La volonté politique, la maturité, et il y a Omar qui a insisté sur l'étude. Je crois que ça rentre dans le cadre des arrangements, c'est cette deuxième étape, étude technique. Est-ce faisable qu'on arrive quand même à organiser les élections au 31 décembre, avant le 31 décembre 2017?
Oui, hier, excusez-moi, c'est vous qui dirigez l'émission, vous avez une structuration. Nous sommes quand même dans une émission où il faut vulgariser l'accord, il n'est pas encore diffusé, ok? Je voudrais vous proposer un petit lien. D'abord, je vous lève une équivoque. C'est étonnant quand même que le secrétaire de la majorité, dont les membres ont signé l'accord, pose la question de la constitutionnalité. Pourquoi ont-ils signé alors qu'ils se poseraient à une question de constitutionnalité? Ça, c'est dangereux.
Vous l'avez dit en début, accord et constitution, c'est deux choses
différentes. Certains ont même dit qu'on dirait la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité de l'accord qui lise la Constitution. La Cour constitutionnalité n'a pas pour mission, pour compétence, pour prérogative de juger de la constitutionnalité des actes qui sont privés. C'est la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi ou pour être au niveau de tout le monde valant loi. Donc là, c'est un faux débat. C'est un faux débat et il faut éviter ça. Ils ont signé l'accord, ils avaient tout le temps, tout le loisir de se lever. Une quelconque inconstitutionnalité, il n'y en a pas. Deux, moi je vous propose, vous, que vous puissiez lire, parce que l'opinion doit savoir qu'est-ce qui est acquis. Vous n'allez pas lire tout l'accord. Il y a eu trois questions fondamentales. La question de la révision ou du changement de constitution, la question du mandat du chef de l'État et la question du timing pour les élections, on a soulevé. Je vous en prie, si vous pouvez dire.
J'avais juste prévu de le résumer. Oui, donc, je sais qu'à un certain niveau, au niveau de.
Non, mais, alors, je vais résumer, hein, oui. Parce qu'il faut qu'on sache, on aurait pu commencer par là.
Oui.
Quel acquis y a-t-il? Premièrement, il n'y aura ni révision, ni changement de constitution. Tout le monde est d'accord sur ça. Quand je dis tout le monde, la majorité, les signataires de l'Union africaine, les rassemblements et tout le monde. Donc, cette question-là, la page est tournée, mais ce compatriote,
c'est le troisième mandat. Il n'y en aura pas.
Troisième mandat. Il n'y en aura pas.
Les élections,
pour les élections les présidentielles, législatives et provinciales en 2017. Et on a abordé aussi la question
de la participation en 2017.
J'en viens. On a soulevé vraiment des questions de fond. Il faut expliquer, ça passe, ça la consistance de l'accord. Les concessions pour la majorité, pour le rassemblement, nous avons reconnu le président Kabila pour cette petite période de transition. Nous avons dit on ne conteste plus ça. Nous avons laissé l'Assemblée nationale, le Sénat, avec leur bureau, les assemblées provinciales, le gouverneur, le vice-gouverneur, ont dit, on ne va pas perdre du temps, allons vite aux élections.
La majorité a
cédé la primature. J'en viens. Donc, nous avons fait des concessions majeures. Une autre concession majeure, nous n'avons plus posé de préalable. Ce qui était comme préalable, la décrispation, c'était devenu un dossier, parce que nous devons aller vite aux élections. Donc voilà, grosso modo,
la majorité.
Non, attendez là. Ce sont des concessions, mais je vais expliquer. Pour nous, le poste de Premier ministre, ce n'est pas pour la jouissance, c'est pour la garantie. Parce que c'est le gouvernement qui gère la République. Vous avez le président dans toutes ses prérogatives, nous avons dit, à tous les mois, donnez-nous la direction du gouvernement pour être garanti qu'on va respecter les accords et qu'on va aller aux élections. Gouvernement au sein duquel, pratiquement, la moitié va aller du côté de ceux qui ont signé l'accord de la Union africaine. La question du Conseil supérieur, non, Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral. Je vais être clair là-dessus. Le Conseil, c'est une institution d'accompagnement. Ce n'est pas une institution de gestion de l'État. Ce n'est pas une institution qui exerce le pouvoir d'État. C'est pour cela que le rassemblement a proposé, ça a été accepté, Dieu merci, que le Conseil soit créé sous la base de l'article 222 de la Constitution comme institution d'appui à la démocratie. Et tiens, tu sais que dit est là, comme on dit, il quitte personne parce que c'est lui, et vous avez bien fait d'expliquer pourquoi on l'a pris. C'est-à-dire que vous avez son aura politique. Vous avez l'autorité morale de la CENCO, les deux associés vont nous rappeler toujours à notre accord, à nos engagements. Ce n'est pas à confondre avec les institutions d'État. Eh bien, le contrôle du gouvernement, la surveillance de la gestion de la République reste toujours l'exclusivité du Parlement avec l'Assemblée qui a le pouvoir de sanction. Donc, voilà globalement comment on a travaillé. La décrispation, rien n'a été fait, on pourra y revenir. C'est regrettable, c'est un problème de volonté. Alors, parce qu'on a posé beaucoup de problèmes, on a posé aussi la question de l'inclusivité. Permettez que j'explique. Non, il faut qu'on se comprenne. L'inclusivité ici consiste en ceci. Nous nous sommes retrouvés autour de la CENCO par délégation et avec des délégués. L'accord n'est pas à soumettre à référendum. Les délégations, toutes les délégations, à l'exception de la délégation du Front pour le respect de la Constitution, pilotée par les MLC, toutes les délégations ont signé l'accord. Même celle qui a émis des réserves. Et ces réserves-là, il faut préciser, nous les avons entendues dans leurs moyens de défense. Ils n'ont pas remis en cause le contenu de l'accord. Tout le monde, même les gens du Front, reconnaissent que nous avons tous discuté, nous avons été impliqués dans le processus, l'accord c'est notre accord, vous comprenez?
Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, non seulement toutes les délégations ont signé, je ne parle pas de tous les délégués, mais aussi j'ai l'impression qu'il faut recadrer cette affaire d'inclusivité. La cité de l'Union africaine, le rassemblement n'était pas là, le front n'était pas là, le parti civil n'était pas là, ni aux négociations, ni à la conclusion, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, je vois des évêques, oh pauvres évêques, bonne foi, mais ils ont affaire à une classe politique qui est ce qu'elle est. Les évêques cherchent même la signature de M. Badibanga, le premier ministre actuel. Il n'est pas délégué. Il y a eu 16 délégués avec une liste de leur côté, c'était de l'Union africaine, 16 délégués avec liste de l'autre côté. M. Badibanga n'est pas délégué, il n'a pas signé l'accord. Comme d'autres qui réclament la signature. Non, c'est par délégation. Donc, il n'y a pas un problème d'inclusivité. Les inquiétudes. Oui, il y a des inquiétudes. C'est comme je dis d'entrée de jeu, ces différentes tonalités qui viennent d'un même camp créent le flou dans la tête des gens. Si je dis à nos collègues de l'autre côté, il faut faire attention. Vous incitez la population à cultiver la haine contre le chef de l'État, contre le régime.
Oui, c'est oui. Je vois pas. Oui, mais en tout cas, vous-même, là,
oui.
Aujourd'hui, nous sommes en phase là, des arrangements particuliers.
Je vais expliquer.
Qu'est-ce qui doit être fait concrètement?
Attendez un peu là.
Il y a même un politique là, du camp de la majorité qui a posé tout à l'heure la question de savoir qui fait quoi.
Attendez un peu là. Parce que je comprends, il y a des temps.
Oui.
Nous vulgarisons.
Parce qu'on va faire
non, l'arrangement, pas les arrangements. C'est l'arrangement particulier. L'accord prévoit que les modalités de mise en œuvre de ces clauses seront fixées dans un arrangement particulier. On peut même l'appeler un protocole
d'accord. Pendant combien de temps?
Attendez. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dans cet accord
tout.
Tous les détails, on fera ceci, on fera cela. Ça ne se peut pas. Il faut qu'il y ait un document qui fait partie intégrante de l'accord.
C'est
fait d'abord. Non, je ne parle pas d'avenant. Ce n'est pas un avenant. L'avenant viendra plus tard. Mais ça fait partie du corps de l'accord. Et donc, il y a la programmation, étape par étape. Telle date on fait ceci, telle autre on fait ceci. La programmation, le chronogramme. Il y a aussi des détails concernant, par exemple, la mise en œuvre du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral. La répartition des sièges, la composition. Le président du conseil est connu, en l'espèce, le président du conseil des sages, en la personne
du
président, tout ce qu'il dit, il y a le président, le vice-président, il y a 3 vice-présidents qui vont être là-bas, il y a 28 membres, il faut le répartir. Il y a le président de la CENCO. Pour le gouvernement de la République, combien de postes? On n'a pas parlé avec un gouvernement de 68 personnes entre nous. Il faut recentrer tout cela. Quel ministère on retient? Qui fait quoi? Et sur ce point-là, j'ai entendu un mensonge grossier. Quelqu'un qui dit que nous, au rassemblement, on est préoccupé par le partage. Ça n'est pas vrai. Si c'était le partage, on serait pas à la tête de l'Union africaine. Les questions de fond, on les a toujours exposées jour et nuit. Quelqu'un nous dit qu'au rassemblement, depuis que nous sommes partis là-bas, il y a l'un d'entre nous qui a dit partage du pouvoir. Il ne faut pas biaiser, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas enlever à notre combat sa noblesse. C'est le combat du peuple.
Malheureusement,
l'arrangement particulier que nous faisons, c'est un ensemble
de
dispositions pratiques de mise en œuvre de l'accord que nous allons négocier à partir de demain.
Mais votre est déjà prêt depuis
oui, lundi. J'ose croire.
Parce que nous avons vu. Azarias a déposé,
ils ont dit que la loi vitale
très bien.
Voilà, on peut donc, on ne peut pas demander aux gens, à nous, de mettre en œuvre l'accord et de ne pas prévoir les modalités de mise en œuvre de l'accord.
Voilà. Alors,
maintenant,
si vous le permettez, on va revenir là, comme ça vous allez nous montrer un peu la
pratique.
Alors, Ernest de Batagui, Pacifique Al-Mouachi, Béda, qui est ça. Ernest, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, meilleurs vers tout le monde.
Et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, moi je crois que lorsque nous regardons la situation avec sans passion, avec notre petite intelligence naturelle, je pense que le gouvernement de 2016 a pu organiser des élections et tout ce qu'on fait c'est en dehors de la constitution. Donc je crains, avec ce retard ici, qu'on arrive à respecter l'échéance de décembre 2017. entre-temps, les autres amis de la majorité, selon ce que nous apprenons dans les points de presse, lorsqu'ils disent comment le rassemblement qui n'a pas la majorité réclame le Premier ministre et ils vont bloquer ce gouvernement lorsqu'on va présenter le gouvernement au niveau de l'Assemblée. Donc moi je me dis, à l'heure qu'il est, on ne parle plus des choses de la Constitution, nous sommes dans une situation particulière. Une situation particulière, c'est-à-dire que lorsque l'opposition prend réellement la primature, constitue le gouvernement ensemble avec la majorité et tous les autres là, on vient à l'Assemblée nationale, on présente simplement ce gouvernement, il n'y a pas à dire que l'Assemblée n'a pas à dire nous acceptons ce gouvernement ou pas.
Alors vous Ernest, alors dans l'arrangement particulier, Ernest, s'il vous plaît, dans l'arrangement particulier, j'ai posé la question tout à l'heure, quels sont les préalables pour qu'on aille vite, pour vous?
Pardon?
Quels sont les préalables? C'est la question principale de cette émission. Quels sont les préalables pour la mise en œuvre effective de cet accord? Pour vous, est-ce que c'est la volonté politique, comme l'a dit Omar? Est-ce qu'il s'agit de revoir la réalité politique de l'étude de faisabilité, de voir si matériellement on peut organiser les élections en 2017?
Moi, je me dis, dès qu'on nomme réellement les premiers ministres qu'on attend de l'opposition, il construit le gouvernement consensuel avec les autres partenaires, on part, on présente le gouvernement et on commence à travailler et on évitera aussi les discours parfois compliqués de la CENI qui est censé d'organiser, d'adapter sa situation. Les finances, on va aller chercher cet argent, il y a des Congolais qui ont beaucoup d'argent et le Congo. Donc, les problèmes d'argent ne se posent pas. On passe vite pour que les choses soient organisées avant décembre ou 2 décembre, on termine les opérations. Sinon, on va dire, voilà, on a dit selon l'OIA que c'est en avril 2018 et voilà que nous arrivons en février ou mars, la CENI vous amène toujours vers ces mois-là. Je crois que c'est plus bon entendre le respect de la Constitution à la juge, parce que nous sommes dans une situation particulière, qui comprend des arrangements particuliers en dehors de tout ce texte juridique que nous avons voté en 2000.
Voilà, merci beaucoup. Vous évoquez le problème de l'État, mais on sait tout de même que quand nous regardons les crises que a connu l'Afrique aujourd'hui, on peut citer par exemple les cas de la crise du Bamboyen en septembre 2008. Il y a eu un accord qui a été signé, mais cet accord n'a été mis en pratique qu'une année après. Donc voilà, il y a des cas. En fait, tant on ne gère pas les préalables, ça risque de prendre quand même du temps. Merci beaucoup d'avoir évoqué cette question. Pacifique, vous êtes à l'embassy, bonjour. Pacifique, vous êtes avec nous? On prend plutôt Bena qui est à Kinshasa. Bena, bonjour. Voilà, décidément, on a des soucis avec la ligne de Bena. Bena, vous êtes à Kinshasa? Voilà, on revient à vous. Voilà, nous sommes à l'étape Bena de l'arrangement particulier. Quels sont les détails aujourd'hui, selon vous, au niveau des rassemblements? Qu'est-ce qui reste, les détails qui n'ont pas été réglés dans l'accord, qui doivent être traités au niveau de l'arrangement?
Non, mais j'ai du temps à dire, je vais d'exposer tout cela. Les histoires de composition, comment ça va fonctionner, et ainsi de suite. Je voudrais quand même revenir sur deux points qui résument tout ce qu'ils disent là. La question des élections. Oui, il y a moyen d'avoir les élections au plus tard en décembre 2017. Toujours volonté politique et bonne foi. Ce qui est regrettable, c'est toute cette voix discordante, conflictuelle, qui crée le flou dans la tête des gens. On ne reviendra pas sur des discussions de négociation, ça va nous prendre du temps.
Nous sommes dans l'accord.
Et ce n'est pas ça, on est dans l'accord. Nous avons prévu un dispositif qui permet tout cela. Et il faut dire aux Congolais les choses de la manière la plus correcte et claire. Aujourd'hui, et je tiens à ce qu'on en parle, la situation financière de l'État ne nous permet pas d'organiser les élections seules. Il faut proposer à nos partenaires de dossiers bancables pour qu'ils nous assistent. Il n'y a pas de honte à cela. Quand j'entends de l'autre côté, on dit, nous allons le faire nous-mêmes, on trompe les gens. Tenez, la CENI vous dit 1,8 milliard. Je rappelle que le premier budget qui était sorti il y a pratiquement 2 ans, c'était 1,2 milliard. Comment on est passé à 1,8 milliard? Et avant que nous mettions en place l'équipe d'acteurs de la CENI, on a revu à la baisse. C'était 890 arrondis millions de dollars. Depuis lors, il y a eu de l'argent qui a été débloqué. On a commandé des kits.
l'enrôlement est en train de se faire, il y a de l'argent, plus de 100 millions qui ont été débloqués. Comment peut-on revenir à ce moment-ci avec un budget d'encore 1,8 milliard de dollars? Il y a Anguille Souroche. Je voudrais dire également, concernant le financement, qu'il faut faire attention. Nous aurons, tout compte fait, le budget qu'on a déposé, c'est à peu près
4 milliards
de dollars. Mmh. Et en termes de réalisation, nous risquons de ne pas avoir de 4, même 4 milliards. Si vous mettez 1,8 milliard,
il s'en pour l'aviation.
Bon, vous mettez la rémunération de tout ce qui relève de l'État. Ça fait à peu près 1,160 milliards par mois. Vous multipliez par 10, ça vous fait à peu près 1,9 milliard. Donc, vous aurez déjà, si on s'en tient à ce chiffre-là, donné par la CENI, seule et les salaires, bah, ils vont donc, le pays ne va pas fonctionner. Donc, là, les dangers, entendre ce qui se dit actuellement, c'est que d'ici quelques mois, parce qu'on est supposé avoir les fichiers prêts au mois de juillet, qu'on nous dise oui, écoutez, malheureusement, il n'y a pas d'argent. C'est ça qu'il ne faut pas. Et c'est ça, si vous permettez hier, la question des inquiétudes. Oui, nous sommes inquiets devant, je me répète plus de 5 fois, ce qu'on attend du côté de la majorité présidentielle et de certains signataires de l'accord de la CENI africaine. C'est dangereux. La situation économique du pays hier, j'interpelle tout le monde, y compris la population. Le gouverneur de la Banque centrale a fait une allocution de vœux il y a quelques jours devant son personnel. Voici grosso modo ce qu'il nous dit. Situation économique, bien. Il y a des crottages de francs congolais. Nous sommes actuellement à 1 000 dollars. Alors, il n'y a pas longtemps l'année dernière, c'était 900 quelques. Tenez, aujourd'hui, il y a maintenant résurgence de l'inflation. L'inflation, d'après ce que le gouverneur de la Banque centrale a donné, eh bien, nous sommes aujourd'hui, mi-décembre 2016, 7% augmentation de prix parce que l'inflation, c'est technique, contre 0,8% en 2015, contre 1% en 2014. Et la tendance continue. Donc, la prévision que l'on a en matière d'inflation pour l'année qui commence, elle n'est pas non plus réduisante. Bon, les recettes publiques. En 2016, on a à peine atteint 4 milliards de dollars pour toute l'année 2016. Alors qu'en 2015, c'était 4 milliards 600 millions. Aujourd'hui, l'État est obligé d'intervenir.
Alors, quand vous évoquez, quand vous évoquez tout cela, oui. Ça nous met encore dans des inquiétudes.
Oui,
ça risque d'être utopique.
Non, il ne faut pas ramener les choses comme ça. Ça, c'est biaisé. Mm-hmm. Là, vous donnez de l'eau au moulin de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. Laissez-moi parler de l'économie. Parce que nous parlons.
Donc, vous appuyez au partenariat.
Non, il ne faut pas déformer.
Non, parce que le rassemblement aura la primature.
Non. Ce n'est pas la question de l'assemblement. Dans la primature. C'est le gouvernement. La primature, elle coordonne, c'est le gouvernement. Vous comprenez? Non, il ne faut pas m'interrompre comme ça. Les réserves d'échange, l'argent dont nous avons besoin pour acheter le produit à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est que la banque A ne nous permet aujourd'hui que d'acheter des produits et des services à l'extérieur, des biens et des services, pour 3 semaines. Vous comprenez? Il n'y a pas de crédit à l'économie. Les banques ont été obligées, sous l'instruction de la Banque centrale, et c'est normal tant que la Banque centrale doit contrôler la masse monétaire, qui exerce des pressions sur la parité de la monnaie et sur les niveaux de prix, l'inflation. Eh bien, pour les dépôts à vue, d'après le gouverneur, et il dit la vérité, on est passé de réserve de 7 à 12 %. Pour les dépôts à terme en délit, on est passé de 8 à 9 obligatoires. À 13%.
Voilà.
Ça veut dire ceci, qu'il n'y a pas de crédit à l'économie. L'investissement est au ralenti. Les salaires diminuent. Et pendant ce temps,
un gros travail,
il y en a qui s'amusent.
Un gros travail à faire par le gouvernement.
Un gros travail à faire.
Je crois que ces éléments, vous avez à verser dans les détails lors de l'arrangement particulier.
Non. Là aussi, vous biaisez. L'arrangement particulier, je vous ai donné le contenu.
Pour organiser
ce sont des éléments de programme du gouvernement que je donne.
Alors, si le programme n'est pas un programme avec des difficultés, des défis à relever, vous ne trouvez pas que ça risque de nous prêcher dans les déserts?
On ne prêche pas dans.
L'accord risque d'être sous papier, la réalité.
L'accord est applicable pourvu que
ceux qui veulent dresser des obstacles, 7. Et nous, rassemblement au G7, nous nous en tenons aux propos du président de la République. Je ne dis pas qu'on le prend au mot, je respecte sa fonction et sa personne. Il a dit aux évêques ceci. Continuez la médiation, faites tout pour que l'accord s'applique rapidement. Et le président Kabila a raison. Nous nous étonnons que ceux qui sont, parce qu'on entourage,
voilà, c'est la réelle politique.
Et nous prenons le peuple.
On va prendre la dernière série des auditeurs. Félicien qui est à Kinshasa, Joséphine à Mosson et Léna à Kinshasa également. Félicien, bonjour, vous avez 1 minute 30.
Bonjour, Gilles, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, vous avez 1 minute 30 pour votre intervention.
Alors, merci. Je voulais seulement dire que nous, Congolais, nous devons être sérieux. Nous ne devons pas nous amuser avec la gestion de notre pays quand on voit la misère qui nous entoure et quand on voit le retard que nous avons connu par rapport à d'autres nations qui étaient vers les années 60 loin de nous par rapport au développement, et qu'aujourd'hui la classe politique que j'estime être très médiocre est en train de nous enfoncer encore. Je ne pense pas qu'après tout ce que la CENCO a fait, qu'on soit encore en train de perdre le temps à discuter, à faire ceci, cela, au lieu d'aller vite alors qu'on a retenu qu'une seule année pour arriver aux élections. Et que le gouvernement ne soit pas encore constitué. Et on commence à courir derrière les gens parce que celui là pose ses conditions, il faut lui doit signer tout ça. Mais finalement, on ne tient même pas compte du poids politique des gens, on ne tient pas compte des rapports des forces des gens, mais n'importe qui, on peut aller lui demander qu'il vienne signer. Comme si lui ne signe pas, il y aura quelque chose. Mais il y avait des négociations de la cité de l'IA. En pleine négociation, les gens sont morts ici. Et les jours, on a nommé les premiers ministres. Il y a eu une mort ici. Voilà. Mais s'il y a des gens qui pensent que si l'EF n'est pas là, ça ne vaut pas la peine.
Merci, Félicien. Vous avez épuisé vos minutes. Alors, on va prendre Joséphine à Boston. Joséphine, 1 minute 30 également. Et puis, Béna, on va conclure avec notre invité. Joséphine, bonjour.
Ah, bonjour, Radio Okapi.
Oui, quelle est votre contribution?
Voilà. Allô?
Madame Joséphine?
Oui, bonjour, bonjour, JR.
Voilà, alors quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Vous êtes à Boston aux États-Unis.
Je suis très contente parce qu'il y a M. Kabila et M. Tshisekedi, à la fin, ils se sont rencontrés pour moi. Je félicite la population congolaise pour tout ce qu'ils ont fait pour écouter les deux camps. Maintenant, M. Kabila doit demander à M. le Premier ministre Sami Badibanga de démissionner. Et puis, c'est ce que tu dois nommer.
Voilà, merci beaucoup, Madame Joséphine. C'est votre point de vue parmi les préalables que vous proposez. Alors, on va, c'est vrai, il y a Félicien qui parlait tout à l'heure des rapports des forces, mais on sait tout de même que les rapports aujourd'hui en démocratie, c'est le nombre de députés qu'on a au niveau du Parlement qui a le mandat du peuple. Est-ce que vous partagez cet avis, honorable Christophe Lutundula?
Ça, c'est classique, mais il faut quand même recadrer les choses. Dans la situation actuelle,
dans la situation actuelle,
cette leçon ne peut plus s'appliquer pour deux raisons. La première raison, d'ici quelques jours, dans un mois, la meilleure institution, l'Assemblée nationale, n'a plus de légitimité. Le contrat politique a expiré pour tout le monde. Donc la notion de légitimité, telle qu'elle est entendue en démocratie, aujourd'hui, elle est prise en
déphasage.
Non, pas en déphasage, mais elle est vidée de sa substance, c'est ce que je veux dire. Elle est vidée de sa substance, c'est pour ça qu'il faut aller vite aux élections. Deuxième raison, c'est que nous avons un accord politique. Nous allons maintenant, pour prendre un terme technique, vers un gouvernement de coalition. Et dans un gouvernement de coalition, il y a des gens qui sont majoritaires, un nombre de députés, parce qu'on a laissé l'Assemblée. Vous voyez la concession de rassemblement. Nous, on n'a pas tenu compte de ça. Nous avons un esprit et des objectifs précis. Nous allons nous retrouver à l'Assemblée. Je voudrais que tout le monde comprenne ça dans le cadre d'une majorité de coalition qui donne naissance à un gouvernement de coalition. Celui qui va chercher à mettre cela en péril, il va créer une crise politique. C'est très clair.
Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas à parler de majorité ou de je ne sais pas quoi.
Donc, le groupe déjà est d'accord, la majorité, le question, ouais. Je crois que c'est une gestion consensuelle.
C'est une gestion consensuelle. Bon, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Je vais dire quelques mots. Premier élément, eh bien, nous devons faire attention. Évitons des attitudes et de propos irresponsables. Le peuple va sanctionner. Le cadre macroéconomique a volé en éclat, la population souffre et ça va aller crescendo. Il faut aller vite à la paix civile, il faut aller vite à la concorde nationale et il n'y a pas deux chemins, il faut appliquer.
Pour vous, la mission essentielle pour le gouvernement, c'est
élection, paix civile, arrêt de la dégradation de la société économique et soulager tant soit peu la condition de vie de la population, même si en 12 mois, ce n'est pas possible. Dernier élément, la décrispation. En quelques mots, il est regrettable que malgré les engagements qu'on a pris jusqu'à aujourd'hui, aucun geste de décrispation de la part de ceux qui sont au pouvoir. Je n'aime pas singulariser le cas de Moïse Katoumi, il n'a pas
osé.
C'est un homme, non, ça n'a pas été vidé.
Mmh.
Il a dit, je m'en remets aux évêques, et c'est regrettable, c'est quand même étonnant que de l'autre côté, on ait même reçu.
Il faut
que dans la dynamique de la mise en œuvre de l'accord,
que tout le monde
paramètre soit réalisé, bonne foi, volonté politique, décrispation, et le Congo soit gagné.
C'est le mot de la fin, honorable Christophe Lutundula, merci d'avoir accepté notre invitation, et vous avez été le premier invité de cette émission Parole aux auteurs de cette année 2017. Merci à tous d'avoir participé à cet échange citoyen. Toute l'équipe a concouru à la production de cette émission. Nous vous disons merci. Sylvain Matondo a été à la mise en onde. Respirer la mise à la réalisation. Julie, Sylvain Bongonda a géré le standard. Et J.R. Lungembo, Loabon Andy a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Martin Sélizabé. À très bientôt.